Félix Séguin, journaliste et animateur de l'émission GE, bonjour.
Bonjour Bernard.
Content de te retrouver. Alors, petit extrait pour mettre la table, petit extrait de ce reportage diffusé ce soir sur GE, on écoute ça.
À chaque réunion, je veux savoir sur ces points-là où on est rendu. Puis pas toi responsable.
Bien reçu.
Bien reçu, merci beaucoup.
Alors écoute, garde Sonia, je vais te dire où je suis ce matin là-dessus. Là. Moi, là, il y a une personne qui est responsable de la vaccination, c'est moi.
C'est de l'enculage de mouches,
ça. Comme je vous disais, il est vraiment...
OK. On a bien compris le sacre, n'est-ce pas, Félix?
Ben oui, écoute, c'est un postulat de quart d'heure que Christian Dubé et ses équipes, là, ont fait. Je t'explique un peu comment ça naît, cette idée-là.
Oui.
Moi, tu sais, là, je suis mordu de politique, puis le film politique que j'ai regardé le plus souvent, c'est À hauteur d'homme. Le film de Labrecque, Jean-Claude Labrecque,
sur,
en 2003.
Sur la campagne de Bernard Landry, oui. Mm-hmm.
C'est ça, l'élection de 2003 que Bernard Landry a perdu. Et puis, donc, Labrecque a fait un film à ce moment-là qui est tout à fait non-partisan, mais qui crie de vérité parce qu'il y a eu un accès total aux coulisses du Parti québécois à ce moment-là, à l'autobus de campagne, aux préparations de débats, à tout. Alors, moi, depuis le début de la pandémie, là, que je tente avec le ministère du Conseil exécutif, qui est en fait le ministère de François Legault,
ouais,
d'aller à l'intérieur de ces murs-là, puis je leur dis, regardez le site de Labrecque, là, puis moi, je veux faire la même chose, mais je sais une affaire, Bernard, je ne suis pas Jean-Claude Labrecque, mais j'en sais une autre. Je peux être assez achalant quand j'ai quelque chose en tête. Donc, j'ai suivi plusieurs de refus, puis finalement, janvier 2021, ça fonctionne, on présente notre affaire, puis on nous donne un accès, puis quand je dis, là, pour ceux qui en douteraient, là,
oui,
un accès sans restriction, sans aucun filtre, sans droit de regard, sans rien, là, au cabinet du ministre de la Santé, mais pas juste à Christian Dubé, à son attaché de presse, à ses attachés politiques. Donc, pendant 37 jours, soit moi ou les deux caméramans, on était cachés dans un coin de la pièce, puis on était dans le... à l'arrière-scène des fameuses grandes messes de 17 heures, qu'on a vu comment la campagne de vaccination s'est articulée. C'est ça le postulat. C'est ça qu'on propose ce soir.
Alors, sans nous dévoiler ce qu'on va entendre ce soir sur JE, mets-nous la table quand même un petit peu, Félix, là, sur peut-être un ou deux moments là particulièrement chargés.
Bon. Oui, il y en a un, tu sais, entre autres, il y en a plusieurs, mais il y a plusieurs couches d'informations là-dedans. Parce que d'abord, on va se porter sur tu sais, il faut que ça soit informatif l'affaire. Donc sur la campagne elle-même, comment on a réussi cette opération-là de vacciner en tout cas tous ceux qui le voulaient là d'une première dose avant le 24 juin. D'ailleurs, l'objectif du 24 juin, tu l'avais vu tout de suite aussi, Bernard, c'était un objet. Il y a de la politique dans tout, hein.
Oui.
On savait, on avait baissé les attentes, on savait qu'on était pour rencontrer notre objectif bien avant le 24 juin, en tout cas. Bref, pendant la campagne de vaccination, il y a eu la crise du AstraZeneca, puis au ministère, ça a provoqué vraiment une crise dans une crise, où on a été obligé d'improviser un peu tout ça, et tu te rappelles, et bien malheureusement, le décès de Mme Serre, la première victime d'une thrombose cérébrale au Québec après avoir reçu le AstraZeneca.
Oui.
Chose que moi, j'ignorais, soit le premier ministre ou le ministre de la Santé dans ce cas-là, sont souvent appelés à contacter des familles de défunts dans des tragédies ou etc. Moi, franchement, je l'ignorais. Et là, on a Christian Dubé qui est tout seul dans la salle des premiers ministres à Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, tu l'as déjà vu, Bernard, cette salle-là.
Oui.
C'est une salle où il y a la photo de tous les premiers ministres, une grande salle, une longue table de conférence ovale. Et là, Christian Dubé est tout seul. Et là, il s'apprête à appeler le veuf de Mme Serre. Et à ce moment-là, je te dirais que le poids de ses fonctions... ça bat un peu sur ses épaules, puis Christian Dubé sanglote. Puis, tu sais, moi, ce que je voulais voir les gens qui géraient aussi.
Ben oui, tu voulais voir l'humain. Félix, tu voulais voir l'humain derrière les politiciens, derrière les ministres.
Ben oui, mais la vérité, c'est qu'on a plein d'idées qui sont assez préconçues, n'est-ce pas, sur la politique.
Ouais.
Moi, je partais avec un a priori qu'au cabinet du plus gros ministère du Québec, là, probablement qu'on avait, tu sais, c'était le traiteur le midi. Pis tout. Écoute, Bernard, c'est un... Comment décrire avec les mots justes un cabinet ministériel? Écoute, on sacre, on pleure, on chicane. Mais
On est dans l'action. 14. On est dans l'action, puis on travaille, t'allais le dire, on travaille des heures de fou, puis à un moment donné, on a des moments d'émotion. C'est normal. Encore une fois, on est des êtres humains.
Ben, c'est ça. Et donc, puis ça, je voulais le documenter. Moi, je trouve que c'est intéressant à documenter. C'est intéressant aussi pour les fans du grand complot, là. C'est intéressant de montrer que la fameuse notion de quelqu'un qui est au service de l'État puis qui place l'intérêt du citoyen, tu sais, le fameux sens de l'État, on se fait souvent rabattre les oreilles avec le sens de l'État. Ben, moi, je suis capable de t'affirmer aujourd'hui que ce qu'on va montrer ce soir, c'est plein de gens, dont trois jeunes femmes des trentenaires, à qui on confie de très grosses responsabilités.
Dont Marjorie Boileau, l'attachée de presse de Christian Dubé, hein?
Oui, puis Sarah Maud Boyer-Gendron, et puis Mylène Dallaire, puis Jonathan Valois, lui qui est un vieux routier, là, mais il est un ancien recruté dans la filière péquiste, mais à chaque fois, ils remettent ça à l'avant-scène en disant... Puis je voulais aussi, il y a une autre affaire que je voulais voir là-dedans que j'ai trouvé très intéressant. Moi, je voulais voir comment le nationalisme très, très assumé de François Legault se décuplait dans les décisions gouvernementales. Puis c'est là où on voit beaucoup de politique en arrière de certains objectifs. Puis à un moment donné, là, on assiste à un meeting. Puis là, je te le dis, là, on a tout le monde autour de la table. Il y a François Legault qui est là et tout ça. Puis on apprend que des compagnies, plutôt le fédéral, tente par, si tu veux, la porte d'en arrière, d'aller contacter des compagnies pour s'enquérir de leur effort de vaccination puis tout ça. Tu vois la potentielle ingérence, hein? Et là, quand Dubé se rend compte de ça, quand Jonathan Valois se rend compte de ça, tout le monde, je peux te dire que le premier ministre sortant, Justin Trudeau, passe un sale quart d'heure, là. Alors, tu sais, il y a ce nationalisme-là qui s'exprime là aussi, je voulais le documenter. Franchement, c'était tout un trip de journaliste aussi, parce que j'étais assis, hey, Bernard, j'aurais pu avoir un scoop par jour. J'ai juste dit, tu vois tout passer, ça se passe devant toi, là.
Alors, laisse-moi demander à Luc. Luc?
Oui, Bernard?
Viens-t'en dans la discussion, mon homme, tu dois avoir une petite question, un petit commentaire, quelque chose.
Ouais, ben moi, Félix, je comprends. D'abord, j'ai très, très hâte de voir ça, puis j'avais beaucoup aimé À hauteur d'homme de Jean-Claude Labrecque. Mais pourquoi est-ce qu'il accepte ça? Okay? Parce que moi, quand j'avais vu À hauteur d'homme, j'avais dit que c'est magnifique, que c'était vraiment bien fait et tout. Mais d'un autre côté, je me dis, mais pourquoi ils se sont ouverts comme ça à autant de possibilités de se faire attaquer? C'est quoi, ils veulent... C'est la vanité, c'est quoi exactement, Félix?
Ben moi j'ai senti aucune vanité là-dedans. Ça je peux te le confirmer. Puis tu sais le pourquoi on a accepté que nous on entre là, j'imagine qu'il y a un certain calcul politique. Puis ça le calcul politique, je veux dire, c'est pas moi qui le fais là. Moi tout ce que je veux c'est être dans la pièce.
Ben oui.
Mais il y a une chose aussi que j'ai insisté là-dessus. J'ai dit moi je veux les voir, tu sais, sous leur vraie couture, sur leur vrai visage. Sous leur vrai visage plutôt, puis je te dis une chose, Luc, à cet effet-là, le postulat de candeur que Dubé et ses équipes font, ça les sert politiquement, en tout cas à mon sens, je ne suis pas une analyste politique,
vous allez voir
que ça les sert très bien. Mais ça nous sert, en même temps, ça nous sert très bien, comme journaliste aussi. Tu sais, il arrive parfois où il y a des intérêts qui convergent dans le sens où manifestement, il y a personne qui s'entend dire que la crise, que l'effort de vaccination, le côté opérationnel de la vaccination au Québec n'a pas été bien géré. C'est manifestement quelque chose qui a bien été. Donc, tu sais, peut-être le savait-il que c'était pour aller assez bien.
Donc, il montre les dessous d'une réussite. Hein? Il montre les dessous d'une réussite. Donc, en ce sens-là, ça les sert bien. Mais Félix, je pense qu'il y a autre chose aussi. Tu as raison de dire, d'abord, il y a un calcul politique. C'est sûr qu'il y a un calcul politique. Mais je pense aussi qu'il y a cette idée que ce que l'on vit présentement, c'est historique. Historique, je veux dire, une pandémie comme ça, là, la dernière, là, ça fait 100 ans. Là. Et je pense qu'ils ont voulu aussi peut-être laisser une trace dans l'histoire de ce qui s'est passé.
Ben,
je pense que
raison.
Ça aussi.
T'as raison. Moi, là, je peux dire, j'ai taraudé le directeur des communications là, du cabinet de François Legault, là, Manuel Dionne, depuis la mi-mars 2020, donc depuis la déclaration mondiale de pandémie, avec essentiellement ce pitch-là, là, comme tu me l'as dit, en disant, il y a comme un devoir de mémoire qu'on peut faire à travers ça.
Bien dit.
Et je pense qu'ils se sont mordus les doigts un peu mais il y avait des raisons aussi sanitaires pour lesquelles c'était un peu impossible à faire au début. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ils sont un peu mordus les doigts au gouvernement, peut-être de pas avoir documenté, sauf le livre, l'excellent livre d'ailleurs d'Alec Castonguay, là, ça, ils l'ont fait par ce livre-là, mais du point de vue des ouais. images qui parlent comme celle-là, ça existe plus ou moins. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi.
Et ce qui en ressort, c'est l'idée que la machine a l'air bien huilée. Qu'est-ce qui ressort, en gros, là?
Ah, toi... pas tant, Luc. Ce qui ressort, là, c'est que ce qui ressort, puis je te reprends les mots de Jonathan Valois, là, c'est une gang de Québécois qui ont décidé de vacciner une autre gang de Québécois le mieux possible puis le plus vite possible. Donc, ça, c'est le postulat de départ. Mais ce qui ressort, moi, ce que je trouve qui ressort dans ça, c'est que Christian Dubé se bat beaucoup contre sa propre machine, qu'il essaie de changer, là. Mais tu sais, vous vous rappelez quand on ouvre les lignes pour la vaccination de masse après l'annonce au stade olympique, là. Là, Christian Dubé, il fait des réunions, puis il fait des... Et là, il dit aux gens qui sont autour de lui, il dit là, ça marche pas, là. Il dit, je vais avoir besoin d'un business owner sur ce dossier-là. Qu'est-ce que c'est qu'un business owner? Tu le sais aussi, Luc, c'est quelqu'un sur qui on peut taper si ça marche pas après. Alors, on voit comment on a géré la vaccination, mais comment on a géré le gouvernement aussi, parce que c'est pas vrai que c'est puis ça, moi je m'en doutais, mais je savais pas à quel point des fois c'était difficile de faire de la politique dans son propre gouvernement, tu sais, aussi. Alors, ça ressort beaucoup, tu sais, quand on entre dans les arcanes, tu sais, de étatique, là, des fois, on voit que c'est compliqué, puis on voit que Christian Dubé, il n'a pas tant de patience là-dessus. On okay. voit aussi les heures de travail. Tu sais, le premier meeting est à 6h30, là, en présentiel, là. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup.
Alors,
c'est assez intéressant.
Ben, c'est sûr. Pour vrai, c'est assez intéressant. C'est un euphémisme, mon cher Séguin.
J'ai hâte de voir ça.
Alors, 21h sur les ondes de TVA, JE, donc, présenté par Félix Séguin. Et puis, dans l'entrevue que tu as donnée au journal, tu parles de ton équipe, tu nommes les caméramans. C'est très important, effectivement, l'équipe technique dans un documentaire comme celui-là. Il faut aller chercher les images, aller chercher le son et tout ça. Ils sont très importants. Travail d'équipe. Donc, Félix, ben bravo. Et puis, on a hâte d'écouter ça.
Merci. Je les salue, Bernard. Kevin Crane démarrait. Martin Beaulieu, les deux caméramans qui ont su se faire oublier pendant 37 jours. C'est un défi.
Bravo. Allez, à la prochaine.
Au revoir.
Luc, on se reparle un peu plus tard.
À tantôt.
Au cas où vous poseriez la question, Jonathan Valois, là, que Félix a nommé à quelques reprises, Jonathan Valois, c'est le directeur de cabinet du ministre Christian Dubé. Donc, c'est le bras droit de Christian Dubé. Il dirige toute l'équipe ministérielle autour de lui.